Les Années-Lumière, édition du 6 juin 2010. Des scientifiques tentent d'apprivoiser l'enfer. Leur défi, mieux prévoir et mieux combattre les feux de forêt. Bonjour, ici Chantal Srivastava en remplacement de Yannick Villedieu qui est en vacances. Je suis en compagnie de toute l'équipe pour vous présenter cette édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne. Une édition qui commence avec un sujet chaud, Hugues de Roussan.
Oui, un sujet chaud, Chantal, s'il en est un, ce sont les feux de forêt. Ils ont brûlé plus de 100 000 hectares depuis quelques semaines au Québec et pour les combattre, cela prend des pompiers, de l'équipement, mais aussi de l'information. Et cette information, il faut la colliger et la traiter.
Il sera ensuite question d'accommodements scientifiques, des accommodements qui sont aussi raisonnables, Gaëlle Lucia Berdoux.
Et il faut bien être raisonnable quand on n'est pas chez soi. Des chercheurs en santé publique se demandaient cette semaine comment mieux faire leur métier à l'étranger.
Puis au courrier des Années-Lumière, une question sur l'efficacité des logiciels pour cultiver sa mémoire. Ça marche ou pas, c'est ce que nous verrons. Et pour terminer la première heure à la chronique des Années-Lumière, vous saurez pourquoi les amas globulaires des regroupements d'étoiles sont devenus les chouchous des astronomes. Par la suite, en deuxième heure, un autre chouchou se dévoile et j'ai nommé le neutrino, qui est un chouchou des physiciens, Sophie-André Blondin.
Le neutrino a non seulement plusieurs personnalités, mais il peut changer de personnalité et même il a une masse. C'est ce qu'on vient d'observer pour la première fois.
Nous irons ensuite au Musée canadien de la nature à Ottawa, musée qui vient de rouvrir ses portes après avoir fait peau neuve. On peut désormais y voir des spécimens inédits, dont un squelette de rorqual bleu de 20 mètres. C'est tout un spectacle. Et pour conclure, vous recevrez l'auteur de la semaine, Hugues de Roussan.
Oui, il s'agit de Michel Mitoff, qui a écrit « Matière sensible, mousse, gel, cristaux liquides et autres miracles ». Le livre est paru aux éditions du Seuil dans la collection Science ouverte.
Mais pour commencer, les feux de forêt. On le sait, plusieurs régions au pays doivent présentement lutter contre des feux de forêt, notamment au Québec où des dizaines de milliers d'hectares de forêts boréales ont été brûlés au cours des dernières semaines. Pour combattre ces incendies, il faut bien entendu des pompiers, de l'équipement, des avions-citernes et j'en passe, mais il faut aussi bien sûr planifier toutes ces interventions afin de maîtriser les flammes le plus rapidement et le plus efficacement possible. Et à cet égard, l'informatique et aussi l'information sont les nerfs de la guerre, Hugues de Roussan.
Oui, Chantal, l'information et surtout le traitement de l'information, c'est primordial. Au Canada, ce sont les provinces qui ont juridiction pour faire la lutte contre les feux de forêt. Et au Québec, c'est la SOPFEU qui en est responsable. La SOPFEU, c'est la Société de protection des forêts contre le feu. Et à la SOPFEU, on a mis au point un programme informatique appelé le Système d'information sur les incendies de forêt, ou le CIF. C'est en quelque sorte une banque de données, une bibliothèque qui collige toutes les informations pertinentes pour combattre les feux de forêt. Alors, on y retrouve des données sur la météo, la foudre, le nombre de feux en activité, ainsi que différents indices de sécheresse, de combustion et de comportement des incendies. On y trouve aussi des données sur la composition de la forêt, la topographie des lieux et les statistiques des années antérieures. Donc, toutes ces informations aident à prévoir le comportement d'un feu. Gérard Lacasse est coordonnateur de l'information de la SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu.
Les premières informations là, qu'on va vraiment regarder, c'est d'abord nos observations météorologiques. Donc, est-ce qu'on a eu de la pluie? Est-ce qu'il y a des vents? Quelle température il fait? L'humidité relative aussi, c'est fort important pour nous. Donc, c'est les quatre informations météo de base. Et nous, on a un système de collecte de données météo de plus de 170 stations automatiques qui nous rapportent de façon horaire qu'est-ce qui se passe au Québec. Donc, ces informations-là nous sont constamment collectées et entrer dans nos modèles de prévision du comportement. C'est une denrée vraiment importante pour nous, car dépendamment là, des changements du passage d'un front, ben toutes les données météo qui vont nous permettre de prévoir le comportement d'un incendie vont jouer en fonction de la météo. Donc, cet aspect de collecte d'informations branché sur un système qui est vivant, donc c'est de minute en minute, il va changer. Ça, c'est ce qui est le plus important.
Est-ce que vous avez des modèles ou des cartes qui vous disent que dans telle région, étant donné tel niveau de température ou telle quantité de pluie qui est tombée, le feu pourrait progresser à telle vitesse, pourrait causer tel dommage?
Pour tout l'ensemble du territoire québécois protégé, il y a une évaluation, je dirais, des peuplements forestiers dominants. Donc, chaque parcelle, on appelle ça une tesselle de 14 hectares, on a subdivisé tout le territoire forestier québécois en parcelles de 14 hectares et là-dedans, on a entrer une donnée de peuplement ou de combustible, pour nous, étant donné qu'on parle de feu, de combustible forestier. Ce qui fait que lorsqu'on a une certaine quantité de vent, de pluie, de soleil, dans un type de combustible particulier, il va avoir un comportement de l'incendie qui va être affecté par le type de combustible. Donc, selon le danger d'incendie qui est entré, on va savoir à quelle intensité va brûler notre feu, à quelle vitesse il va aller. Et cela, ça va être modélisé à tous les 14 hectares. Donc, un feu de forêt, c'est une succession d'inflammations, une succession de petits allumages l'un en arrière de l'autre. C'est pas un feu qui s'en va de façon constante parce que il va avoir un endroit où ça va avoir été bûché. Donc, c'est vraiment vérifié et c'est entré dans notre base de données. On a un meilleur portrait de ce qui se passe.
Ce qui veut dire que lorsque vous faites une intervention sur le terrain, c'est presque une intervention à la carte.
Exactement. Nous, dès qu'on a un feu qui nous est rapporté, on lui rend une donnée longitude, latitude. Le système nous dit, OK, je suis à tel endroit. Les combustibles en présence sont dans telle partie de ce périmètre-là, le feu va se propager à telle vitesse, il va avoir une longueur de flamme de telle hauteur et normalement, il va faire tant de mètres à la seconde. Et dès qu'il va arriver dans un combustible de bouleau ou encore dans du tremble, il va changer, donc il va avoir une vitesse moins grande. Ça va nous le dire aussi. Donc, ça aide beaucoup dans la planification du travail. C'est une stratégie qui s'adapte jour en jour et parfois même au cours de la même journée. C'est vraiment en fonction du combustible, de la météo et de la topographie. Donc, la pente, son pourcentage de pente, son exposition, une montagne qui est exposée au sud va brûler plus intensément parce qu'elle va avoir réchauffé plus. Donc, c'est toutes des données, ça, maintenant, qu'on peut entrer dans nos modèles qui nous permettent de faire une meilleure évaluation du problème.
Gérard Lacasse, coordonnateur de l'information de la SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu. Alors, Hugues, un des aspects importants de la lutte contre les feux de forêt, c'est d'être en mesure de les suivre, de suivre leur évolution.
Oui, actuellement, les provinces suivent l'évolution des feux sur le terrain à partir d'observations qui sont prises par avion ou par hélicoptère. C'est une méthode qui est efficace, mais qui est quand même chère, notamment dans les régions éloignées. Et à l'heure des télécommunications, l'utilisation des satellites est de plus en plus envisagée. Au Canada, par exemple, il existe un début de système de détection par satellite et de suivi des incendies de forêt, le Fire M3. Robert Landry est ingénieur et chercheur en environnement scientifique au Centre canadien de télédétection du ministère fédéral des Ressources naturelles.
L'idée derrière ce système-là, c'était d'utiliser l'imagerie satellitaire pour faire le suivi des points chauds sur le territoire canadien. Dans cette période-là, on utilisait les images satellites du capteur du satellite NOAA et VHR. Ces images-là c'est les images qu'on retrouve souvent à la télévision lors des prédictions météo. C'est un satellite météorologique. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ces images-là pour détecter avec les bandes thermiques les points chauds à travers du Canada. Évidemment, les points chauds nous donnent une idée où sont les feux de forêt. Vu que les satellites tournent autour de la Terre, ce qu'on peut faire, c'est faire plutôt un suivi des points chauds sur la Terre. Donc, on ne fait pas nécessairement de la détection, à moins que l'imagerie satellitaire soit le premier à voir le feu de forêt. Habituellement, il ne l'est pas.
Là où votre système fonctionne très bien, c'est pour le suivi d'un feu une fois qu'il a commencé.
Exactement. Mais c'est quand même très, très grossier au niveau de l'information. Pour les gens qui sont sur le terrain à combattre le feu de forêt, habituellement, les gens utilisent des capteurs aéroportés sur des avions. Parce que les feux sont très, très dynamiques. À l'intérieur de 15 minutes, avec de grands vents, un feu peut bouger de 20 km. Donc, quand l'image prend son acquisition, le temps de traiter l'information et la rendre disponible, le feu est plus nécessairement où l'image a dit qu'il était. Lors du combat des feux, c'est pas nécessairement un outil qui est utilisé en temps réel. Par contre, cet outil-là, le FireAim3, en utilisant l'imagerie satellitaire, est très utile pour avoir une vue synoptique sur tous les territoires. Donc, ça peut aussi aider comme outil de décision pour le déploiement du matériel. Au début des années 2000, les provinces étaient souvent au courant des feux où il y avait surveillance. Donc, le nord du Québec ou dans les régions éloignées ou le nord de l'Ontario, où il n'y avait pas une surveillance active, souvent, il n'y avait pas d'informations. Ils pouvaient avoir, dire, ah, il y a des feux de forêt là parce qu'on sent la fumée. Tandis que là, avec l'imagerie satellitaire, ça permet de voir au-delà des zones habitées où il y a des grands feux de forêt qui peuvent brûler.
En fait, ça vient compléter le travail des agences provinciales.
Exactement. C'est un outil de plus dans leur boîte à outils, si on veut.
À partir de ce qu'on a, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'il y a une possibilité d'amélioration? Est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait faire au cours des 5 ou 10 prochaines années pour avoir une meilleure prise d'information?
Il y a beaucoup de pays puis d'agences spéciales internationales qui sont intéressées justement à faire le suivi des feux de forêt. Dans les prochaines années, il y a quand même plusieurs missions satellitaires où il va y avoir des capteurs thermiques dont les spécifications sont vraiment orientées pour le suivi, justement, des feux de forêt. Plus on va avoir de satellites avec des caractéristiques pour détecter les points chauds, plus on va augmenter la fréquence d'imagerie à tous les jours. Donc, on va pouvoir faire un suivi plus fréquent et plus précis parce qu'à mesure que, évidemment, les années passent, ça va être des satellites avec de très hautes résolutions. Donc, j'ai l'impression qu'en augmentant la fréquence et la résolution, de plus en plus d'agences vont commencer à intégrer justement l'imagerie satellitaire autant au niveau du suivi ou parfois même si on a une bonne fréquence au niveau de la détection.
Robert Landry, donc, du Centre canadien de télédétection.
Juste rajouter, Chantal, l'Agence spatiale canadienne a commandé une étude de faisabilité sur l'utilisation d'un réseau de microsatellites entièrement dédié à la détection et surtout au suivi des feux de forêt. Le concept fonctionne bien sur papier, mais il est encore trop lent. Il faudrait une 20aine de satellites pour que les informations soient transmises rapidement sur le terrain et actuellement, il n'y en a que 2 disponibles.
Cela étant dit, Hugues, aussi destructeur soit-il, comme il y a toujours 2 faces à une médaille, il ne faut pas oublier non plus que les feux de forêt permettent aussi ce qu'on appelle la régénération de la végétation et du couvert forestier. Mais toute la question, c'est de savoir si on laisse la nature travailler seule ou si on lui donne un petit coup de pouce pour réaménager les secteurs brûlés.
Oui, Chantal, on peut toujours laisser la nature faire son travail, mais cela prend du temps. On peut aussi procéder à la plantation d'une essence d'arbre ou de plusieurs essences d'arbre pour remplacer les arbres qui ont été brûlés. Mais également, on pourrait utiliser les espaces libérés par le feu pour implanter de nouvelles essences d'arbres et ainsi diversifier la forêt. Comment? Eh bien, en accélérant la migration de certaines essences venues du sud. Alison Munson est professeure d'écologie forestière à la Faculté de foresterie de l'Université Laval.
On en parle de plus en plus avec les changements climatiques. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour aider ou avancer la migration des arbres vers le nord? Parce que on dit que des conditions climatiques vont favoriser d'autres arbres dans le nord qui, avant, n'étaient pas capables de pousser là. Ça pourrait éventuellement être une opportunité d'essayer de planter des essences qui sont de peu plus du sud, sur la marge, comme le pin blanc, le pin rouge ou autre, pour voir si, à long terme, ils sont capables de survivre dans des nouvelles conditions de climat. Une des prédictions pour le futur, c'est qu'on aura plus de feu. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient ou est-ce qu'on laisse aller? Il y a tout un débat, en fait, dans la communauté scientifique, comment on devrait gérer ça ou non.
Donc, la communauté scientifique ne sait toujours pas quelle sera la politique d'intervention pour maximiser l'impact des feux pour le renouvellement de la forêt avec le changement climatique.
Il y a certaines provinces, comme la Colombie-Britannique, qui ont un peu d'avance et ont déjà décidé d'établir des plantations plus au nord avec des essences du sud pour justement vérifier dans les prochaines décennies comment ils vont réagir. On parle de ça actuellement au Québec, mais on l'a pas encore fait. On n'a pas pris la décision d'aller de l'avance. Mais je pense que ça s'en vient dans les prochaines années. C'est pas évident parce qu'on joue aux apprentis sorciers quelque part. Donc, il faut être prudent, mais à la fois essayer des nouvelles choses. En même temps, d'être un peu avant-gardiste pour essayer d'être capable de maintenir une forêt qui est productive à long terme.
Alison Munson, donc, de la Faculté de foresterie de l'Université Laval. Ce qu'on peut peut-être dire pour conclure, Hugues, c'est que l'année 2010, en matière de régénération des forêts, est quand même un peu particulière.
Oui, ça, c'est une bonne année, en fait, pour commencer à implanter de nouvelles essences d'arbres, parce que le printemps était hâtif, il n'y a eu pas beaucoup de pluie, le sol est sec, l'hiver n'a pas été trop dur, et la régénération naturelle des zones brûlées pourrait être plus lente que d'habitude.
Une occasion, donc, peut-être à saisir pour imaginer de nouvelles façons de peupler la forêt.
À saisir.
Merci, Hugues.
Au revoir.
Ici Mario Masson de l'émission Découverte. Vous avez manqué un reportage des années-lumière ou vous voulez simplement écouter l'émission quand bon vous plaira? Facile! Le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Il est également diffusé en direct par flux MP3. Il est même disponible partout dans le monde via satellite sur Sirius. Notez cependant que les années-lumière n'est pas encore diffusé sur les autres planètes du système solaire, mais on y travaille ardemment.
Dans le grand monde de la science, des milliers de congrès, de colloques et autres conférences sont organisés chaque année à travers le monde pour permettre aux chercheurs de partager les résultats de leurs travaux. Mais il arrive aussi qu'ils se réunissent pour discuter de leur façon de faire, des limites de leur travail et des moyens d'améliorer leurs pratiques. Et c'est justement un colloque de ce type-là que vous avez assisté cette semaine à Montréal, Gaëlle Lucia Berdoux.
Oui.
Alors, un colloque qui réunissait des chercheurs en santé mondiale. On parle de quoi exactement?
La santé mondiale, en fait, c'est la santé publique, mais au-delà des frontières, si vous voulez. En fait, les chercheurs décrivent leur domaine comme l'évolution de ce qu'on appelait avant la médecine tropicale, donc l'étude des maladies ou de la santé dans les pays du Sud, ou si vous voulez, les pays en développement, mais elle est mise aujourd'hui à l'heure de la mondialisation. Je vous propose d'entendre la définition plus précise de Slim Haddad, professeur au département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal, lui-même spécialiste en santé mondiale.
Aujourd'hui, la mondialisation, elle touche tout autant l'économie, les dimensions politiques, que également les questions de santé. On va retrouver à la fois des problèmes de santé publique classiques dans des pays dits du Sud, mais également ce qu'on appelle les maladies de la transition, c'est-à-dire des maladies qui sont en lien avec le vieillissement de la population, le changement dans nos habitudes de vie, qui font que quand on va parler de grands enjeux de santé publique, comme l'obésité ou l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, ben c'est aussi un problème maintenant qu'on rencontre dans des pays qui anciennement étaient considérés comme des pays pauvres où on retrouvait principalement des maladies dites infectieuses, voyez. De la même manière qu'aujourd'hui, avec le mouvement des populations, les mouvements migratoires, les grands échanges que nous avons, vous retrouvez des grandes épidémies ou des grandes endémies ou des maladies infectieuses qu'on croyait plus ou moins disparues ou peu présentes dans nos pays occidentaux, puis qu'on retrouve aujourd'hui et qui se mondialisent en elles-mêmes.
Slim Haddad de l'Université de Montréal, donc Gaël, si je comprends bien, c'est dire que la santé se mondialise et les chercheurs aussi?
Oui, ils sont de plus en plus nombreux à élargir leurs recherches au-delà des frontières du monde occidental, ce qui rend d'autant plus importantes les questions qui peuvent se poser sur leur façon de faire. Par exemple, en santé publique, on parle souvent du consentement éclairé, hein, comment s'assurer que ceux qui participent à une étude le font en toute connaissance de cause. Bien sûr, avec des populations qui ne sont pas toujours très éduquées, qui parlent des langues différentes ou qui peuvent avoir des valeurs complètement différentes, ben la question va prendre un sens bien particulier. Un autre exemple, pour les chercheurs qui travaillent de concert avec des collègues dans ces pays du Sud, ça amène aussi des questions sur la teneur même de ces partenariats scientifiques. C'est ce que nous dit à nouveau Slim Haddad.
Je crois que l'enjeu le plus important, c'est de parvenir à avoir des relations partenariales équilibrées avec des collègues chez qui s'installent très souvent des rapports de force, mais même si on ne les veut pas. Je vous donne un exemple. Vous êtes chercheur à l'Université de Montréal. Vous collaborez avec un collègue à l'Université de Ouagadougou. Le bailleur de fonds vous octroie les fonds. Il vous demande d'être imputable des ressources. Quand vous collaborez avec votre collègue, immédiatement, vous créez un rapport de force dans la mesure où il vous rend compte de l'utilisation des fonds. C'est extrêmement difficile pour des chercheurs de conserver une relation partenariale quand vous détenez ce pouvoir sur les gens. C'est un peu la même chose pour les publications. Si vous êtes la personne qui prend le leadership pour la publication, pour la diffusion des connaissances. Donc l'enjeu vraiment important, il est dans notre capacité à avoir un partenariat équilibré. Alors c'est sûr qu'il ne peut pas toujours être égal, parce que des fois c'est le bailleur de fonds qui vous demande à vous de gérer l'argent, et puis vous-même si vous ne le voulez pas, c'est ça ou rien. Mais dans ce contexte, la situation est extrêmement exigeante parce qu'elle nous met devant une situation où le rapport de force peut s'établir très facilement, même implicitement, même des gens de très bonne volonté, voyez-vous. Je peux, moi, du simple fait que j'ai peut-être une formation un peu plus avancée ou parce que je contrôle les sous, parce que je peux facilement voyager et que j'obtiens mon visa tout de suite alors que mon collègue du Burkina n'obtiendra pas facilement son visa pour venir. Je peux tout de suite tomber dans une relation qui, quelque part, est un petit peu déséquilibrée, même avec beaucoup de bonne foi.
Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi à surmonter ça?
Ce serait prétentieux de le dire. Je crois, et je pense qu'avec les années, on y fait plus attention, je crois qu'on essaie, mon équipe, mes collègues, moi-même, d'y être attentif. Je n'exclus pas que dans certaines situations, comme je vous disais, et même avec la meilleure bonne foi, on véhicule quand même un certain nombre de forces, justement, qui établissent ce rapport de force et cette condition de subalterne chez nos collègues de pays du Sud. Il faut comprendre aussi que les processus qui amènent à la genèse de projets de recherche, parfois eux-mêmes véhiculent ces forces-là. Par exemple, si vous arrivez en disant « j'ai une idée, puis je vais aller la présenter à mes collègues, puis je vais voir s'ils sont d'accord, et puis s'ils sont d'accord, on va développer un projet ensemble », ça a l'air totalement anodin, mais fondamentalement, vous êtes la personne porteuse d'une idée sur laquelle vous demandez aux collègues, aux gens de s'aligner. Donc, même avec la bonne foi, avec toute la bonne foi, on peut, dans certaines circonstances, reproduire ces rapports. Je crois que ce qui est important, c'est la transparence. Je crois que c'est important de pouvoir se poser les questions. Et je pense que la dissociation de la gestion des ressources, de la vie scientifique d'une équipe, est probablement une des meilleures garanties d'indépendance.
Slim Haddad du département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal. Alors Gaëlle, est-ce que les collègues du Sud qui collaborent avec des chercheurs occidentaux comme M. Haddad sont d'accord avec tous ces constats?
Mais non seulement ceux qui étaient présents à ce colloque étaient d'accord, mais ils allaient même parfois plus loin. Ils soulignent bien sûr le manque de chercheurs qualifiés dans leur pays, le manque de subventions publiques à la recherche aussi. Souvent, elles sont carrément inexistantes. Ils critiquent par exemple ce qu'ils appellent la recherche postale ou encore la recherche parachute, c'est-à-dire des chercheurs occidentaux qui étudient la santé publique dans les pays du Sud, mais pratiquement sans jamais y mettre les pieds, donc un peu sur commande. Mais surtout, ils critiquent aussi un manque trop fréquent d'équité dans les rapports entre chercheurs du Nord et du Sud. C'est ce que dit Seni Kwanda, qui est chef du département de santé publique de l'Institut de recherche en sciences de la santé du Burkina Faso.
Vous avez des gens qui viennent avec déjà un projet déjà conçu et qui vous demandent si vous voulez exécuter. C'est-à-dire, en ce moment, vous collectez les données, mais vous n'êtes pas un scientifique. Et ça, les exemples, j'en ai beaucoup. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça ne vous met pas dans le même rapport. Lui, il vient, il vous propose quelque chose, et vous, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez dedans, même si ça ne vous intéresse pas. Parfois, ça peut conduire certains collègues à accepter parce qu'il y a des ressources financières derrière, ils seront payés sur ça, etc. Mais ils ne sont pas forcément contents parce qu'ils ne participent pas au débat scientifique. Et après, la personne, elle récupère les données, elle publie. Bon, vous êtes en deuxième ou troisième auteur, etc. Et puis c'est tout. Si vous n'êtes pas remercié à la fin, quoi. Et voilà. Et je trouve que ça, c'est pas, y a pas d'équité dans ces rapports-là. Et ça, c'est très dommage. Donc ça, c'est des exemples. L'autre exemple, c'est que on abuse. Parfois, les chercheurs du Nord viennent. Voilà, vous devez faire la recherche ensemble. Vous avez tout bâti ensemble, mais vous n'avez pas l'équipement nécessaire. Donc vous êtes obligé de retourner les échantillons, par exemple, de sang au Nord pour qu'ils analysent. Et puis, ils ont les données, c'est eux qui ont analysé. Donc, il n'y a pas une équité dans ce cas-là.
C'est Nick Wanda de l'Institut de recherche en sciences de la santé du Burkina Faso. Alors, manque d'équipement, manque de financement, problème dans la gestion des ressources. Finalement, Gaëlle, c'est toujours la même chanson, une histoire de gros sous.
Le nerf de la guerre et cette contrainte-là de l'argent, elle prend différentes formes. Par exemple, quand on travaille avec des populations qui vivent avec presque rien, il faut parfois les dédommager pour leur participation à une étude. Ça existe d'ailleurs chez nous aussi. Mais il ne faut pas que ça devienne la raison de cette participation. Et puis, il y a quelque chose de bien particulier aussi en santé mondiale, c'est que souvent, les bailleurs de fonds souhaitent que les fruits de ces recherches soient accessibles aux États ou aux populations qui y ont pris part pour bien sûr que ces résultats donnent des applications concrètes sur le terrain. On appelle ça le partage ou le transfert des connaissances entre les chercheurs et les acteurs du milieu. Et là aussi, l'argent entre en ligne de compte, comme va nous l'expliquer le chercheur Valérie Ride du département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal, qui dirige lui-même des travaux au Burkina Faso.
Et dans ces enjeux-là, en Afrique de l'Ouest en particulier, les décideurs, ceux qui prennent des décisions, qui ont donc besoin, lorsqu'ils le souhaitent, d'avoir des données probantes pour prendre des décisions, il existe une espèce d'organisation qui s'est institutionnalisée dans beaucoup de pays de la pratique de ce qu'on appelle les pairs diems. C'est-à-dire que les gens ne vont pas vouloir se réunir si vous ne leur donnez pas d'argent pour qu'ils se réunissent, y compris dans la formation par exemple. Vous ne pouvez quasiment plus effectuer une formation sans donner de l'argent aux gens pour qu'ils soient assis à participer à la formation. Alors que dans beaucoup de contextes, c'est plutôt l'inverse, vous payez la formation. Dans le cadre des projets, mais que ce soit des projets de recherche ou des projets de développement international, c'est institutionnalisé au fur et à mesure des années. Et tout le monde est un peu complice dans cette manière, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, que ce soit très clair, hein. Il y a une responsabilité partagée dans tous les sens. Alors, l'une des questions qu'on a en ce moment, c'est ça, c'est quand vous voulez, et comme il y a une pression de plus en plus forte et légitime, selon moi, que les résultats de recherche soient utiles et utilisés, mais en face, vous avez des décideurs qui vont réclamer de l'argent pour être capables d'écouter ce que vous avez produit et partagé avec eux. Évidemment, il y a des enjeux là fondamentaux. Il faut être capable de trouver cet argent-là, s'interroger sur est-ce que les gens viennent pour toucher cet argent ou simplement ou pour vous écouter vraiment. Donc voilà, c'est quelque chose de très complexe. On peut avoir une vision réductrice de la manière dont le décrire. Donc il faut être prudent, mais il faut être capable de le dire aussi, de le formaliser pour qu'on puisse ensemble et collectivement trouver une solution à ce phénomène.
Est-ce que c'est un sujet tabou dans le milieu de la recherche en santé mondiale en particulier?
Oui, c'est un sujet complètement tabou, dont on ne veut pas parler, et parfois à juste titre, parce qu'il est complexe, parce qu'il n'y a pas de solution. J'aurais une solution, je ne serais pas là. Donc je pense qu'il faut d'abord mettre ça sur la table, qu'il y ait des enjeux autour de ça, que les gens soient au courant, parce que des fois, ça prend une ampleur fondamentale et incroyable, quoi. Et avec de l'argent qui est utilisé à mauvais escient. Et tant qu'on ne mettra pas ça sur la table et qu'on n'arrivera pas à en discuter la manière dont on utilisera cet argent de manière plus transparente et surtout plus équitable, on n'aura pas résolu le problème.
Valérie Ride, chercheure à l'Université de Montréal. Alors Gaëlle, M. Ride justement disait que ce phénomène des pairs diems peut parfois prendre une ampleur considérable. Ça va jusqu'où? Est-ce qu'on a une idée?
De notre point de vue à nous, ça ne représente pas nécessairement des sommes considérables. On parle parfois d'à peu près 10 $ par participant pour être dans un atelier, mais comparé au salaire moyen d'un fonctionnaire en Afrique, c'est relativement considérable. Ce que me disait Valérie Ride, c'est que pour organiser un de ces ateliers justement de partage des connaissances auxquels assistaient une 50aine de personnes, dont quelques-unes, il faut le dire, devaient assumer des des coûts pour se déplacer, même d'un pays voisin ou de l'intérieur du pays, manger, se loger, etc. Ça lui a coûté 14 000 $.
Coquette somme quand même. Merci, Gaëlle.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir, en deuxième heure, une visite au Musée canadien de la nature à Ottawa, qui vient tout juste de rouvrir ses portes après une véritable cure de rajeunissement.
Quand les gens rentrent dans la galerie, on entend des « Oh! » et des « Wow! » parce qu'on a un squelette entier de rorqual bleu qui est monté dans la galerie. L'édifice, auparavant, n'était pas équipé pour pouvoir rentrer un objet de telle dimension. Alors maintenant, avec le nouvel édifice, on était capable de rentrer le rorqual bleu dans toute sa splendeur. C'est 20 mètres de long.
C'est maintenant le moment du courrier des auditeurs. Cette semaine, une question par Internet. Alain Ratel nous demande si les logiciels pour améliorer la mémoire sont efficaces. Gaëlle Lucia Berdou a soumis la question à Sylvie Belleville, neuropsychologue et directrice de la recherche à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Madame Belleville explique d'abord en quoi consistent ces fameux logiciels d'exercice de mémoire.
Probablement qu'il s'agit des logiciels qui sont vendus sur le marché et qui allèguent que le fait de faire ces activités et ces exercices vont améliorer la mémoire. Hein? Mais il y en a plusieurs. C'est pas nécessairement tous des logiciels qui portent sur la mémoire. Il y a beaucoup de ces logiciels qui portent aussi sur l'attention, sur la résolution de problèmes, sur la vitesse de traitement.
Et est-ce que ça fonctionne?
En fait, on n'en sait rien. En tout cas, je peux vous dire que, à ma connaissance, il y a peu ou pas d'études qui ont vraiment testé dans les règles de l'art l'effet de ces logiciels sur la mémoire, particulièrement sur la mémoire dans la vie quotidienne ou en tout cas sur les capacités à plus long terme dans la vraie vie. Ce qu'on sait, c'est que ces logiciels, quand on les utilise, quand on pratique les exercices, puis je pense que les gens qui les utilisent savent très bien ce dont je parle, ben, on sait qu'on s'améliore. Hein? C'est normal. L'être humain s'améliore sur à peu près n'importe quelle tâche qu'il va répéter.
Donc, ça fait quand même un peu travailler la matière grise.
Ça fait que, oui, absolument. Donc, je ne veux pas ici dire que probablement ça ne fait rien. Hein. Effectivement, il y a un effet bénéfique dans la mesure où ces gens-là, ils font quelque chose qui les fait réfléchir, qui les amène à porter attention, et ils vont s'améliorer sur ces exercices en particulier. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ils sortent de l'exercice, quand ils s'en vont conduire leur voiture, quand ils essaient de mémoriser le nom d'une personne, est-ce que ils vont avoir effectivement une meilleure mémoire qu'avant. Et puis, ce qu'on ne sait surtout pas, c'est est-ce que ça prévient du déclin cognitif qui est associé au vieillissement, qui est associé aux maladies neurodégénératives. Là, vraiment, on est très, très loin d'avoir des réponses claires à ces questions pourtant importantes.
Et est-ce qu'on sait s'il y a d'autres façons de prévenir justement ce déclin cognitif, ces problèmes de mémoire qui arrivent avec le vieillissement?
Ben, c'est intéressant, c'est qu'en fait, ces logiciels, ils reposent sur une littérature scientifique qui existe et qui montre que quand on regarde une grande cohorte de personnes âgées, on sait maintenant qu'il y a des facteurs liés au style de vie qui sont associés à un meilleur fonctionnement cognitif et qui sont associés à moins de déclin cognitif dans le temps. Donc, on sait que de faire de l'exercice physique, que le fait d'avoir une éducation plus élevée, donc plus d'années d'éducation formelle, le fait d'avoir fait des activités cognitivement stimulantes, intellectuellement stimulantes, un travail intellectuellement stimulant, ça, ce sont des caractéristiques qui ont l'air d'être associées à un meilleur fonctionnement cognitif.
Et est-ce qu'il y a des exercices ou des techniques qu'on peut appliquer oui. dans sa vie quotidienne pour améliorer sa mémoire?
Ben, il y a des grandes études qui ont montré qu'on peut enseigner aux personnes âgées des techniques pour améliorer la mémoire. Mais c'est pas la même chose que ce qu'on voit dans la plupart de ces logiciels, parce que souvent ce qu'on fait, c'est qu'on amène les gens et on va leur enseigner en personne les techniques. Ce sont des techniques exigeantes puis qui demandent beaucoup de feedback de la part de la personne qui les enseigne. Donc, on doit enseigner des stratégies. Ce n'est pas de la pratique de mémoire. C'est pas en pratiquant sa mémoire qu'on va l'améliorer, c'est en utilisant des stratégies.
Par exemple,
si on doit apprendre le nom d'une nouvelle personne, on va associer son nom à un mot connu et à une caractéristique de la personne. Moi, je m'appelle Madame Belleville. Vous pourriez dire, ah, Madame Belleville, elle habite dans une belle ville à Montréal. Et donc, après, vous avez fait un travail plus profond et ça va vous permettre après de récupérer le nom plus facilement. On doit utiliser des stratégies d'encodage qui vont amener à faire en sorte que l'information, elle est engrammée dans votre mémoire de façon plus riche. Et c'est ça qui va faire que vous allez mieux récupérer l'information. Donc, je ne dis pas que ces logiciels n'ont pas un effet qui peut être stimulant. Ce que l'on ne sait pas, c'est jusqu'à quel point ils ont un effet dans la vraie vie. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est jusqu'à quel point ils ont plus d'effet que de faire, par exemple, une activité intellectuellement forte, comme jouer aux échecs, aller au musée, rencontrer ses amis et discuter de sujets intéressants.
Sylvie Belleville, merci beaucoup pour ces explications.
C'est rien, c'est moi qui vous remercie.
Gaëlle Lucia Berdou s'entretenait avec Sylvie Belleville de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal pour répondre à une question de notre auditeur, M. Rattel, sur les logiciels pour améliorer la mémoire, ce qui m'amène à vous dire que vous pouvez en tout temps nous soumettre vos questions de science, de technologie. Vous le faites en laissant un message sur notre boîte vocale. Par téléphone de la grande région de Montréal, vous composez le 514-597-6166, 514-597-6166 ou de l'extérieur, le numéro sans frais, 1-800-752-9050, 1-800-752-9050. Chronique des années-lumière maintenant cette semaine, l'astronomie avec Laurent Drissen. Bonjour Laurent.
Bonjour Chantal.
Alors vous nous parlez pour cette dernière chronique de la saison régulière en astronomie de regroupements d'étoiles qu'on peut qualifier comme étant les chouchous des astronomes amateurs.
Oui, ben c'est les chouchous des astronomes amateurs, mais c'est aussi les chouchous de certains astronomes professionnels.
Comme vous?
Comme moi. Et comme amateur aussi, j'adore les regarder dans mon petit télescope d'amateur. On va parler des amas globulaires. Les amas globulaires, disons, c'est des regroupements de... Ça peut aller de centaines de milliers d'étoiles jusqu'aux plus massifs qui contiennent des millions d'étoiles. Et toutes ces étoiles sont liées gravitationnellement entre elles. Donc, c'est des objets qui voyagent comme ça à travers la Voie lactée. Et c'est vraiment des objets qui sont très, très beaux à voir, autant dans les petits télescopes que dans les gros télescopes. Dans les gros télescopes, on peut distinguer les étoiles individuelles. Et il y en a tellement que ça devient étourdissant.
Des boules de watts, hein, ça ressemble un peu à des boules de watts sur le fond noir du ciel.
Quand on regarde ça dans un petit télescope d'amateur, c'est ça. C'est donc des objets qui sont très, très beaux à regarder. La Voie lactée en contient à peu près 160, mais c'est des objets aussi qui, du point de vue astrophysique, ont joué un grand rôle dans l'histoire de l'astrophysique, autant du point de vue de l'astrophysique stellaire, pour comprendre un petit peu les modèles d'évolution des étoiles, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que dans un point de vue plutôt cosmologique, où on essaie de comprendre la formation des galaxies comme la nôtre.
Alors, sauf que quand on regarde tout ça à partir du sol, il y a une densité d'étoiles telle que c'est difficile de distinguer quoi que ce soit de manière nette.
Exactement, surtout dans la région centrale. En périphérie, on peut distinguer les étoiles individuelles, mais dans la région centrale, où se situe la majorité des étoiles des amas globulaires, il faut vraiment utiliser soit l'optique adaptative au niveau du sol, ou d'utiliser le télescope Hubble, dont on vient de célébrer le 20e anniversaire.
Oui.
Et d'après moi, je pense que c'est une des grandes contributions de Hubble à l'étude de l'univers, cette imagerie caractéristique des amas globulaires. Hubble nous a permis de sonder jusque dans les parties centrales de ces objets.
Alors, quel genre de choses on a pu apprendre grâce à Hubble concernant les amas globulaires?
Bon, entre autres, on a pu mesurer, et ça, c'est justement le but de l'article que je vais décrire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré la température et la luminosité des étoiles dans environ 60 amas globulaires. Donc, ça représente à peu près la moitié de l'échantillon total de la Voie lactée. Et on l'a fait de manière systématique. C'est-à-dire qu'on a utilisé exactement les mêmes filtres, on a réduit les données, on a dépouillé les données de manière homogène et on a utilisé aussi les mêmes modèles théoriques pour interpréter les données. Et ça, ça a permis de faire quelque chose qui avait été impossible avant, c'est-à-dire de mesurer les âges relatifs de cet échantillon de 60 amas globulaires avec une précision de l'ordre de 2 %.
C'est quand même pas mal, 2 %. Hein?
C'est, en astrophysique, 2 %, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ça a permis justement de déterminer l'âge de ces amas qui va de 7 milliards d'années à environ 13 milliards d'années. Et ça, c'est assez différent de ce que moi j'ai appris quand j'étais à l'école, où on nous disait que les amas globulaires, c'était tous des objets qui étaient extrêmement vieux, qui avaient été formés au tout début de la formation de la Voie lactée. Maintenant, on apporte beaucoup plus de nuances et on se rend compte que, justement, il y a un éventail d'âge de ces amas globulaires de la Voie lactée.
Ils ne sont pas uniques, donc. L'étude également, Laurent, a permis de déterminer la métallicité, dit-on, de ces amas.
Oui. La métallicité, c'est le contenu en éléments plus lourds que l'hélium. Donc, ça peut être l'oxygène, le fer, le calcium, par exemple. Et on mesure cette métallicité par spectroscopie. Donc, on obtient le spectre de ces amas et on mesure le contenu en éléments lourds. Et on sait qu'il existe un lien entre la métallicité d'un objet et son âge, parce que les étoiles qui se sont formées peu longtemps après le Big Bang ne contiennent essentiellement que de l'hydrogène et de l'hélium, alors que les étoiles qui naissent présentement sont beaucoup plus riches en éléments lourds qui ont été formés au cœur des étoiles des générations qui se sont succédées pendant des milliards d'années. Donc, ce qu'on a fait avec cet échantillon, c'est qu'on a essayé d'obtenir une corrélation entre l'âge des amas globulaires, qu'on a mesuré avec une très grande précision, et leur métallicité. Et on a ajouté aussi à ça un facteur de dynamique. On a mesuré le déplacement des amas globulaires dans la Voie lactée. Et tout ça a fait que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux populations très, très distinctes d'amas globulaires dans la Voie lactée. La première, qui était composée d'amas qui avaient à peu près tous le même âge, environ 12,8 milliards d'années, relativement peu métalliques, donc des objets vraiment très, très vieux, et qui tournaient tous à peu près dans le même sens. Et il y avait un second groupe parmi cet échantillon qui était des objets généralement plus jeunes et qui montraient une relation évidente entre leur âge et la métallicité. Autrement dit, les objets plus vieux avaient une métallicité faible et les objets plus jeunes étaient beaucoup plus riches en métaux.
Et ça, c'est quand même intéressant parce que toute cette histoire-là nous amène à nous poser une question un peu plus fondamentale et avoir des pistes de réponse, Laurent. La grande question, c'est de voir comment se forment les fameuses galaxies.
Oui, c'est, disons, la grande question du jour en astrophysique depuis, disons, une dizaine d'années. Comment se forment les galaxies et en particulier la nôtre, la Voie lactée? Et cet échantillon assez complet d'amas globulaires avec les informations qui ont été fournies par le télescope Hubble, entre autres, nous ont permis de nous faire une espèce de scénario de formation de la galaxie dans lequel la majeure partie de la masse a été formée lors d'un effondrement peu de temps après le Big Bang, à peu près un milliard d'années après le Big Bang, un effondrement lors duquel se sont formés, je dirais, à peu près les deux tiers des amas globulaires qu'on connaît aujourd'hui dans la Voie lactée. Mais les autres amas globulaires, ceux qui sont plus jeunes, plus riches en métaux et qui généralement tournent dans des directions opposées aux autres, ce seraient des amas globulaires qui se seraient formés lors d'interactions entre la Voie lactée, qui est plus grosse que les autres, et les galaxies naines qui l'entouraient. Et ça, c'est un scénario qui se confirme de plus en plus, que la Voie lactée s'est formée d'une part par un effondrement massif et d'autre part par l'accrétion d'objets plus petits qui se sont formés, disons, au cours des milliards d'années qui ont suivi.
Une forme de cannibalisme stellaire.
Exactement, un cannibalisme qui est confirmé, disons, par d'autres études, mais là, l'étude de ces amas globulaires permet vraiment de le confirmer de manière assez évidente.
Bien, Laurent Dressen, je vous remercie infiniment de nous avoir raconté cette belle histoire d'étoiles et je vous souhaite un très bel été.
Merci beaucoup, Chantal.
Merci, au revoir. Et je rappelle que vous êtes professeur au département de physique de l'Université Laval. Merci, Laurent.
Merci, Chantal.
Au revoir.
Au revoir.
C'est donc ainsi que se termine cette première heure des Années-Lumière. La suite après le bulletin de nouvelles. À tout de suite. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, rebienvenue, ici Chantal Srivastava pour vous présenter la suite de votre magazine d'actualité et de culture scientifique. Au menu de cette deuxième heure, êtes-vous muon ou tau? C'est le genre de question que se posent les neutrinos, des particules élémentaires qui viennent de faire tout un coucou aux physiciens qui les traquent depuis un bon moment déjà. Une belle histoire de science qu'on vous raconte dans quelques instants. Ce sera suivi du petit journal de la science, puis nous irons faire un tour au Musée canadien de la nature à Ottawa, le musée qui vient tout juste de rouvrir toutes ses galeries après une réfection majeure. Des spécimens rares sont ainsi pour la première fois montrés aux visiteurs, dont un squelette de rorqual bleu de 20 mètres, imaginez. Et pour conclure l'émission, l'auteur de la semaine, le physicien Michel Mitov, nous présentera la matière dans tous ses états. Il a écrit « Matière sensible, mousse, gel, cristaux liquides et autres miracles ». C'est paru dans la collection Science ouverte au Seuil. Vous ne les voyez pas, vous ne les sentez même pas. Et pourtant, tous les jours, des milliards de neutrinos traversent notre planète, sans s'arrêter, sans ralentir et sans même interagir avec la matière. Mais malgré leur grande discrétion, ces particules élémentaires viennent d'être prises en flagrant délit de transformation. Et ça, c'est tout un exploit, Sophie-André Blondet.
Oui, les chercheurs du laboratoire Gran Sasso en Italie ont détecté l'apparition d'un neutrino de type tau dans le faisceau de neutrinos de type muon qui leur parvient d'un accélérateur de particules 730 km plus loin en Suisse. Un tau parmi les muons, c'est un intrus dont on guettait l'arrivée depuis au moins 2 ans pour enfin démontrer que les neutrinos sont capables de changer de nature pendant leur voyage. Dario Autiero est coordonnateur de l'analyse de la collaboration pour l'expérience OPERA, cette expérience internationale qui vient de détecter la première oscillation des neutrinos.
On n'a pas encore une preuve dans le sens qu'on a détecté seulement un premier événement, un premier candidat. Et avec un seul événement, on est sûr au niveau du 98%, que du point de vue scientifique, ce n'est pas un niveau de confiance suffisant pour avoir un preuve définitif d'un phénomène. Il faudra avoir la patience et attendre l'analyse des autres données qu'on est en train de collecter pour arriver à faire une démonstration finale de ce phénomène.
98%, Sophie-André, effectivement, ce n'est pas 100%, mais c'est une observation qui marque néanmoins une étape majeure.
Oui, pour comprendre l'impact de cette observation, je vous propose un bref portrait de famille des neutrinos. Le neutrino, c'est une particule élémentaire, une de ces particules subatomiques qui constituent la matière de l'univers. Le neutrino est issu de réactions nucléaires, donc on en reçoit du Soleil. Il s'en produit aussi dans les centrales nucléaires. On reçoit aussi des neutrinos avec les rayons cosmiques qui bombardent la Terre. Et on peut aussi les produire à partir des accélérateurs de particules. Et puis, il y a 3 types de neutrinos. On dit 3 saveurs, d'ailleurs. Les neutrinos de type électron, de type muon et de type tau.
Alors, une particule qui est très, très spéciale pour les physiciens.
Oui, et pour 2 raisons. Elle a d'abord cette absence d'interaction avec la matière que vous avez mentionnée au départ. Le neutrino passe tout droit dans la matière. Et aussi sa masse, qui est presque nulle. Une masse 1 million de fois plus petite que la masse d'un électron. Mais déjà qu'on parle de la masse d'un neutrino, c'est particulier et vous allez voir. Mais avant la masse, les saveurs ou les changements de saveurs, Brigitte Vachon, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada en physique des particules, explique comment on a commencé à soupçonner que les neutrinos étaient capables de changer de saveur.
Tout ça a commencé un petit peu la saga des neutrinos, justement, avec ces mesures en regardant ou en calculant le nombre de neutrinos de type ou de saveur électron qui est produit par le Soleil. Les physiciens se sont très vite rendus compte que le nombre de neutrinos qui étaient calculés de façon théorique et le nombre de neutrinos qui étaient observés par des expériences ne concordaient pas. Alors, soit, d'une part, la théorie n'était pas bonne, ne décrivait pas vraiment ce qui se passait dans le cœur du Soleil, ou, d'autre part, quelque chose arrive à ces neutrinos dans leur trajectoire du Soleil à la Terre.
Qu'est-ce qui leur arrive? Ils changent de saveur.
Alors oui, alors les expériences depuis une dizaine d'années suggèrent que ce qui arrive aux neutrinos, c'est effectivement qu'ils changent de saveur. C'est-à-dire qu'un neutrino de type, par exemple, électron qui est produit, a une probabilité non nulle, alors une probabilité de tout simplement changer après une certaine distance de voyage, de changer en, par exemple, un neutrino de type muon.
Cette transformation-là, elle est le résultat d'une oscillation. On appelle ça l'oscillation des neutrinos. Et si les neutrinos peuvent osciller, ils n'ont donc pas une masse nulle.
Effectivement, c'est vrai. Jusqu'à maintenant, dans ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, on croyait jusqu'à il y a quelques années que les neutrinos n'avaient aucune masse. Vous avez raison que l'observation, l'évidence qu'effectivement des neutrinos peuvent osciller ou se transformer d'une saveur à une autre indique que ce n'est pas vrai, que cette hypothèse n'est pas correcte, mais qu'en fait, les neutrinos doivent avoir une masse. Même si c'est une très petite masse, ils doivent avoir une masse mathématiquement.
Brigitte Vachon, donc professeure au département de physique de l'Université McGill. Alors, Sophie-André, on a observé un premier changement de saveur, une première oscillation de neutrinos. Et comment on fait ça exactement?
Avec un dispositif très particulier, celui de l'expérience OPERA. Depuis 2008, il y a des faisceaux de neutrinos de type muon qui font le voyage entre l'accélérateur de particules du CERN en Suisse et les installations du laboratoire Gran Sasso près de Rome, 730 kilomètres plus loin. Les neutrinos passent dans la croûte terrestre et l'immense majorité d'entre eux parviennent en Italie. Mais là, il y a tout un piège qui les attend, parce que pour les détecter, il faut que les chercheurs forcent les neutrinos à interagir avec la matière. Dario Auterio décrit l'expérience OPERA, la manip, comme il le dit.
Alors, il faut s'imaginer que les neutrinos sont particules qui interagissent très faiblement avec la matière. Et dans leur parcours, vous pouvez imaginer qu'il y a à peu près un neutrino sur un million qui est perdu par effet de l'absorption avec la roche de la croûte de la Terre. À Gran Sasso, par effet de cette faible capacité d'interagir des neutrinos, on a besoin d'un cible très important pour détecter un nombre appréciable. Notre manip, qui est installée dans cet laboratoire souterrain, c'est un laboratoire qui se trouve dans un tunnel autoroutier et il est blindé par à peu près 1400 mètres de roches de la montagne qui est au-dessus du tunnel, pour se protéger par rapport aux particules qui viennent de l'espace, les rayons cosmiques. Et dans cet laboratoire, on a installé cette manip OPERA qui est fait d'une cible très importante d'à peu près 1250 tonnes de matériel qui nous permet de faire interagir les neutrinos et après détecter les produits de leur interaction. Alors pour faire ça, on a conçu cette expérience qui est fait des sandwichs, des plaques de plomb, d'un millimètre d'épaisseur et des plaques de plomb, ils constituent la cible pour les neutrinos. Et ils sont intercalés avec des films photographiques qui nous permettent de mesurer les trajectoires des particules qui sont produites dans l'interaction avec une précision très poussée qui est de l'ordre du micron. Et on a effectivement visualisé un neutrino qui interagit dans les plombes, il a produit plusieurs particules. Et une de ces particules, après un petit peu qui est un millimètre, et s'est désintégrée et a produit une particule chargée et aussi probablement une autre particule qui s'est désintégrée dans des photons. Et ça, c'est une des signatures qu'on s'attend par la désintégration du taux et qui se passe dans la moitié des cas à peu près.
Dario Autiero, donc coordonnateur de l'analyse de l'expérience OPERA. Alors Sophie-André, si je comprends bien, on s'imagine sous terre, en Italie, sous des tonnes de roches avec une cible immense faite de sandwichs, de plaques de plomb et de pellicules photo. Et tout ça intercepte les neutrinos en provenance de la Suisse. C'est dans ce dispositif-là donc que la particule tôt, cet intrus dont vous nous parliez a laissé sa signature.
On a effectivement détecté la trajectoire signée de cette particule tôt, alors que le faisceau de neutrinos en provenance de Suisse est de type muon. Conclusion, en chemin, le neutrino a changé de saveur, il a oscillé. Et pour qu'il oscille, il faut qu'il ait une masse. Et comme le modèle standard de la physique des particules suggérait que les neutrinos n'avaient pas de masse, il faut donc revoir ce modèle. Mais ça, on s'en doutait déjà. Brigitte Vachon, de la chaire de recherche sur la physique des particules, explique l'importance de cette première observation.
D'une part, c'est très significatif parce que ça nous indique directement qu'effectivement, il y a vraiment une mutation, une oscillation d'un type à l'autre et que ce n'est plus, si vous voulez, une évidence indirecte ou des résultats indirects. C'est vraiment une évidence directe de ce genre de phénomène, d'une part. D'autre part, c'est que, bon, d'ici les prochaines années, l'expérience Opéra sera capable, on espère, d'enregistrer un plus grand nombre d'événements, ce qui va permettre pour la première fois aussi de faire des mesures plus précises de, par exemple, la probabilité d'un certain type de neutrino d'osciller ou de changer en un autre type. Alors, ça ouvre une porte très importante sur un nouveau sujet de mesure en physique des particules.
Est-ce que ça plombe le modèle standard?
Ça fait déjà quelques années qu'on sait qu'il va falloir modifier le modèle standard. Alors, c'est dans ce sens-là, bon, on est toujours au même point où on était, l'année dernière. Mais effectivement, avec, dans le futur, des mesures, disons, plus directes et plus concrètes, on va avoir plus d'informations à savoir comment on devrait modifier notre théorie du modèle standard. Alors, c'est encore une pièce du puzzle.
Un casse-tête qui n'est pas complété, a expliqué la physicienne Brigitte Vachon de l'Université McGill. Mais puisque les nouvelles observations concourent à confirmer qu'il faudra conférer une masse aux neutrinos, est-ce qu'on résout par la bande, Sophie André, un autre casse-tête de la physique, celui de la masse manquante de l'univers?
Ce serait bien d'une pierre deux coups, et c'est ce qui est venu en tête chez les physiciens dès qu'on a soupçonné que les neutrinos auraient une masse. Une masse infime, mais présente en immense quantité, ça fait toujours une masse, non? Pourtant, selon les derniers calculs, la masse des neutrinos ne permettrait d'expliquer qu'une fraction, une petite fraction de la masse manquante de l'univers. Donc, le casse-tête continue de se résoudre, mais un petit morceau à la fois.
Et il y a beaucoup de bleu ciel dans le casse-tête.
Oui.
Merci, Sophie.
Pour apprendre à retrouver un assassin grâce à la chimie, à envoyer un SOS du fin fond du Grand Nord ou encore découvrir l'aliment qui empêche de grossir, rendez-vous la fin de semaine prochaine au Vieux-Port de Montréal. Pour une troisième édition, le festival Eureka s'installe sur les quais de vendredi à dimanche avec une centaine d'activités, d'ateliers, conférences, ludiques et instructifs pour tous les goûts et tous les âges. Et parce que la science, c'est aussi un art, une soirée d'improvisation scientifique et poétique est au menu et même des tournois de slam scientifique. Pour le programme complet, festivaleureka.ca.
Un des secrets de l'acupuncture aurait été percé. Des chercheurs de l'Université de Rochester aux États-Unis ont découvert que l'acupuncture libérait dans l'organisme une molécule, l'adénosine, qui a des effets antalgiques. L'acupuncture est apparue en Chine il y a 5000 ans. Elle soulage certaines douleurs grâce à l'implantation d'aiguilles fines à des endroits bien précis du corps. L'étude a été menée au centre médical de l'Université de Rochester. Des souris éprouvant des douleurs aux pattes ont été piquées au niveau d'un point situé près du genou. Les séances d'acupuncture duraient 30 minutes et à toutes les 5 minutes, on faisait tourner les aiguilles. Résultat, le niveau d'adénosine était multiplié par 24 et la douleur réduite des deux tiers. Pour vérifier s'il y avait un lien de cause à effet, les chercheurs ont supprimé chez certaines souris le récepteur de l'adénosine et dans ces cas, l'acupuncture n'avait aucun effet sur le niveau de la douleur. Les chercheurs ont également constaté que la douleur diminuait lorsqu'on administrait la molécule aux souris. Les résultats de la recherche ont été publiés sur le site Internet de la revue britannique Nature Neurosciences.
Il y a de l'espoir pour les orphelins dans le monde des écureuils roux. Il arrive qu'une tante, une grand-mère ou une sœur adoptent les bébés orphelins d'une mère disparue. C'est ce qu'ont constaté les scientifiques du Kluane Red Squirrel Project, qui a colligé des observations sur 7000 écureuils roux depuis 1987. Ces comportements altruistes ont surpris les chercheurs des universités McGill, Guelph et de l'Alberta. Ces écureuils sont habituellement hautement territoriaux et ne cultivent pas de liens étroits avec les autres individus de leur espèce. Pourtant, lorsqu'une mère disparaît, les membres de sa famille proche parviennent parfois à remarquer son absence et vont chercher ses bébés pour les élever comme les leurs. Les chercheurs, qui publient leurs travaux dans la revue Nature Communications, croient que les familles d'écureuils parviennent à se reconnaître grâce aux cris qu'ils émettent.
Après des années de rénovation, le Musée canadien de la nature à Ottawa vient enfin de rouvrir toutes ses galeries au public. Installé dans le superbe édifice commémoratif Victoria, ce musée regorge de spécimens de minéraux, de la faune et de la flore qui sont tirés de la collection nationale canadienne. La construction de l'édifice patrimonial Victoria qui abrite le musée a commencé en 1905 et a duré 5 ans pour se terminer en 1910, ce qui veut donc dire que le vénérable bâtiment est désormais centenaire. Pour commémorer l'événement, l'édifice Victoria s'est refait une beauté, ce qui a permis du même coup de renouveler les galeries d'exposition et même de présenter des spécimens jusqu'ici inédits. Je suis allée visiter le musée tout juste avant sa réouverture officielle le 22 mai dernier en compagnie de Marie Lanier, directrice des services communautaires au Musée canadien de la nature.
Alors, on vient de franchir les portes majestueuses de chêne et on est dans le vestibule avec des marches de marbre qui vous permettent de voir déjà l'entrée du musée, de magnifiques vitraux qui représentent plusieurs espèces végétales et animales du Canada. Les vitraux ont été faits par les artisans de l'époque. On a, par exemple, un Martin Pêcheur que vous voyez là, un magnifique grand-duc, et ainsi qu'un aigle pêcheur où on voit même qu'il a le poisson entre ses griffes.
Et ces vitraux-là ont été faits, ils ont 100 ans, ils sont centenaires?
Oui, ils sont centenaires. Dans la construction, entre 1905 et 1910, on a fait ces vitraux-là.
Alors ça, c'est ce qui accueille le visiteur quand il arrive ici. Et là, maintenant, on entre, on ouvre la grande porte, Mme Lanier.
Oui, vous êtes les bienvenus dans l'édifice comme tel. Vous allez rentrer maintenant sur une mosaïque qui a été restaurée durant les travaux de rénovation et également la magnifique mosaïque de l'Orignal qui a été là depuis 1905. Et une petite anecdote par rapport à l'Orignal, il est morphologiquement correct, mais à un moment donné, dans l'histoire du Canada, il y a eu des pressions pour qu'on lui enlève ses parties génitales qui étaient un peu trop proéminentes, mais récemment, on lui a, enfin au cours des années 80, on lui a redonné ses attributs de mâle.
Oui, parce qu'on l'avait carrément castré?
Oui, on l'avait castré parce que des religieuses avaient trouvé que c'était un peu trop difficile pour des jeunes enfants qui allaient venir ici s'éduquer de commencer en arrivant face à un orignal aussi beau.
Et bien pourvu.
Et bien pourvu, oui.
Alors là, justement, cet orignal, il nous accueille, Mme Lanier, alors qu'on est dans ce superbe hall d'entrée.
Oui, et c'est un hall qui est très lumineux, donc ça vous permet vraiment de voir l'ampleur de l'édifice. Et suite aux rénovations, on a également construit une lanterne juste au-dessus de notre tête. C'est une structure de verre. C'est un clin d'œil qu'on fait à l'architecture originale, puisque lorsqu'on a construit l'édifice, il y avait une tour justement au-dessus de notre tête. Mais étant donné que l'édifice a été construit sur une terre argileuse, eh bien, l'édifice s'était mis à à entrer dans le sol, là, à glisser en profondeur. Et donc, on a été obligé d'enlever la tour. Et donc, les architectes modernes aujourd'hui ont trouvé une façon de remettre la tour pour pas que le poids soit aussi dur sur la fondation. Et donc, ça l'a permis d'avoir une tour de verre. En plus, les autres défis qu'on avait au niveau architectural, c'était que pour conserver et pour pouvoir exposer les différents spécimens qu'on a ici au Musée de la Nature, il fallait absolument qu'on ait des conditions d'humidité, de température et de lumière très contrôlées. Et avec des murs de pierre originaux, c'était pas possible de faire, d'atteindre ces conditions-là. Donc, on a créé finalement ce que j'appellerais un endosquelette, c'est-à-dire une structure à l'intérieur de la structure de métal. Et c'est ce qu'on et entre les deux, il y a une zone tampon qui permet de contrôler la température, l'humidité à l'intérieur. Donc, c'est un autre des défis d'architecture et d'ingénierie qu'on a dû faire. Mais aujourd'hui, ça nous permet d'exposer des spécimens qu'on n'avait pas pu exposer depuis des années parce qu'ici, on n'avait pas les conditions. On va aller dans la galerie des minéraux qui est au troisième étage. Alors, nous arrivons dans la galerie de la Terre Verte qui est une... galerie qui présente les minéraux et aussi les différentes façons que les roches se sont formées. Alors, on va rencontrer mes collègues.
Dont la conceptrice, c'est ça?
Oui, Caroline Nantier a été conceptrice.
On est en train de terminer l'aménagement, là?
Oui, on est avant la réouverture, même si... et on est dans les derniers retouches pour...
Le sprint final, le sprint c'est toujours
final.
Comme ça.
Voilà. Alors, nous avons ici Mme Caroline Lantier, qui est une collègue qui a travaillé très fort et qui est encore dans le dernier sprint pour la réouverture de l'exposition.
Bonjour, Mme Lantier.
Bonjour.
Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Vous êtes bien occupée par les temps qui courent?
Oui, oui, nous sommes très occupés là, à terminer la galerie de la Terre, donc installer les derniers spécimens, les derniers interactifs, etc., les manipulations. Le grand message de la galerie, c'est que la Terre est en perpétuel mouvement grâce à trois grands processus géologiques. Donc, le processus métamorphique, magmatique et sédimentaire. Donc, c'est vraiment, on commence avec le processus magmatique.
Le magma au centre de la Terre.
Au centre de la Terre.
La Terre qu'on voit ici, c'est ça?
C'est ça, la Terre qu'on voit ici. Donc, à l'entrée,
boule.
Donc là, on se trouve en ce moment à l'entrée de l'exposition. Donc, à l'entrée de l'exposition, on a un globe vidéo qui est de 2 mètres dans lequel on va présenter là, la Terre justement en mouvement pour venir appuyer notre message. Donc, c'est un globe vidéo où on va présenter justement là, le mouvement des plaques tectoniques, l'évolution de la Terre à travers les millions d'années, donc de la Pangée jusqu'à aujourd'hui. Donc, les gens vont pouvoir contrôler à l'aide des ordinateurs, le programme qui est présenté, et pouvoir en apprendre un peu plus là, sur cette Terre là, qui est en perpétuelle mutation. Donc, on part vraiment de la base, parce qu'on essaie vraiment de partir de là où les gens partent pour les amener un petit peu plus loin, parce qu'on a découvert justement que les gens connaissaient peu de choses. Alors, on commence vraiment, bon, voici, à l'intérieur de la Terre, les couches de la Terre, c'est ce qu'on fait dans la première zone. Par la suite, il y a le magma. Le magma, bon, se solidifie, crée des roches. Lorsque ça vient en surface, ça s'appelle de la lave. Et là, par la suite, on présente différents types de roches magmatiques qui reflètent les recherches que nos chercheurs font ici au Musée canadien de la nature. Donc, on peut peut-être procéder de ce côté-là.
Donc, combien de spécimens vous présentez dans la galerie?
On a 1000 spécimens dans cette première section de la galerie, première phase de la galerie. Donc, on a environ 40 à 45 % là, des spécimens sont des spécimens canadiens. Bien sûr, il y a certaines localités là, à l'étranger qui sont spécifiques pour les pegmatites, par exemple le Brésil. Donc, on présente des spécimens, les plus beaux spécimens de notre collection. Donc, alors voilà, on a ici, on parle des zéolithes qui sont des filtres naturels. On parle aussi des ophiolithes, donc la région de Thetford Mines. On parle aussi, bien sûr, du mont Saint-Hilaire.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier, le mont Saint-Hilaire?
Le mont Saint-Hilaire, c'est vraiment un endroit extraordinaire pour tous les minéralogistes dans un tout petit lieu, une concentration énorme de minéraux. Donc, on retrouve plus de 400 espèces. Donc, 50 espèces ont à peu près ont été découvertes au Mont-Saint-Hilaire. On revient, on va rencontrer mon collègue Michel Picard, qui va pouvoir vous parler là, de ce lieu exceptionnel pour les collectionneurs. Donc, voilà.
Mais merci pour la visite, Mme Lantier. Monsieur Picard arrive justement. Bonjour, Monsieur Picard.
Bonjour, madame.
Alors, vous êtes un peu chanceux qui avez la chance de vraiment bien connaître la collection des minéraux qu'on a ici au Canada. C'est une belle collection et on peut voir certaines de ces pierres précieuses, pas dans le sens premier, mais précieuses pour vous, géologues.
Elles sont précieuses par leur rareté, leur beauté également et la richesse aussi de ce qu'on a au Canada et à travers le monde. Notre collection est quand même très internationale également.
Alors ici, on a 1000 spécimens, mais la collection complète qu'on
a... Environ 55 000 spécimens. Et parmi ceux-là, je dirais environ 50 % sont canadiens.
Alors ici, justement, on est devant quelque chose de typiquement canadien, Mont-Saint-Hilaire. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, là, M. Picard?
L'intrusion de alcaline du Mont-Saint-Hilaire a donné des formations riches en minéraux et de terres rares, et de zirconium et yttrium, tous ces éléments-là. Donc c'est pour ça que la minéralogie est très exotique, on va dire. C'est la mecque de la minéralogie au Canada et peut-être même à travers le monde, parce que dans une petite carrière, ils ont trouvé actuellement près de 400 espèces différentes minérales, dont je dirais une cinquantaine uniques au monde, le seul endroit dans le monde où est-ce qu'on en trouve.
Des exemples de ça ici que vous pouvez me montrer?
Oui, dans notre vitrine ici, on a la sérendite qui était une des premières qui a été trouvée, celle qui a le plus de valeur au point de vue collection.
Ça ressemble à quoi, si on devait décrire ça? Je suis bien embêté. On dirait des petites boules de watt?
Non, la sérendite, c'est l'orange. c'est un minéral de manganèse, un silicate de manganèse. Okay. Et c'est un minéral qui est rare dans le monde. Et à Saint-Hilaire, c'est parmi les plus gros cristaux qu'on peut trouver dans le monde et les plus jolis aussi. Et donc, sur le marché de collection, c'est un spécimen de haute valeur. On peut dire comme plusieurs dizaines de milliers de dollars.
Ah, ça vaudrait plusieurs...
Exactement. D'ailleurs, c'est notre plus beau spécimen de la collection et probablement le plus beau qui a jamais été trouvé au Mont-Saint-Hilaire.
Ils vous viennent d'où, ces minéraux-là? Comment ils ont abouti dans la collection?
Il y en a qui s'est ramassé par nous-mêmes, mais souvent, c'est des collectionneurs privés qui nous proposent des spécimens. Et si on a les moyens, soit de faire un achat ou un échange, on le fait. Donc, on fait beaucoup de collectes sur le terrain, du moins dans les années antérieures. Maintenant, c'est plus difficile, soit selon le budget qu'on a ou le personnel qu'on a aussi.
Alors, quand même, encore aujourd'hui au musée, on fait de l'analyse, de la recherche des spécimens qu'on a. Vous en avez pour plusieurs années encore à tous les analyser.
Oui, parce qu'on a l'équipement voulu pour voir la chimie et la structure des minéraux qu'on découvre. Et si on n'est pas capable d'identifier visuellement, on en fait l'analyse juste pour confirmer que c'est quelque chose soit de nouveau ou soit de connu.
Donc, c'est intéressant pour vous d'avoir pu, comme scientifique, collaborer à la préparation de l'exposition aussi?
En tant que scientifique, oui, mais moi, je suis aussi pour la collection. Étant un collectionneur aussi, dans mes débuts de géologue, je collectionnais les minéraux. Donc, moi, je vois dans tout ça aussi l'esthétique, en plus que la recherche.
Vous en avez une préférée, vous? Celle-ci en haut?
Probablement celle-là en premier, oui, la sérendite. J'aime aussi celle que j'ai retrouvée moi-même.
Laquelle?
Oh, il y en a plusieurs. Celle-ci, ça date même d'avant le musée. J'avais collectionné cette pièce-là avant le musée, avant mon arrivée au musée, et je l'ai donnée au musée récemment.
Qu'est-ce que c'est?
C'est un mica qui s'appelle téniolite. Et c'est probablement le plus gros cristal de téniolite qui existe peut-être dans le monde.
Donc, vous devez être fier de voir certains de vos spécimens ici qui vont être vus par tous ces Canadiens.
Exactement. On avait tout ce qu'on a comme collection, c'est caché dans des cabinets. Et on n'avait jamais eu vraiment l'occasion, même avec notre ancienne galerie minérale, d'en montrer abondamment. Et je suis fier que même si on a une demi-galerie maintenant, on en montre déjà plus que ce qu'on a montré il y a 10 ans, 12 ans à notre première galerie minérale. Donc, et je pense que la façon qu'on les a présentés, les connaisseurs et les moins connaisseurs vont trouver des heures de plaisir à venir voir notre galerie.
Ça fait longtemps que vous travaillez, vous collaborez à la préparation de ce projet-là?
À peu près un peu comme tout le monde. On est des chercheurs, moi, de la collection, je suis le seul à m'occuper de la collection. Donc, j'ai aidé surtout à la sélection des spécimens et l'agencement des pièces selon les étagères qu'on avait à remplir. Donc, j'aime bien qu'est-ce que j'ai choisi, puis je pense que j'ai pas trop mal choisi.
Vous avez pas mal tout choisi, si je comprends.
Non, il y en a encore beaucoup.
Et celles qui sont ici, c'est vos choix.
Ah, c'est ça, oui.
C'est vos coups de cœur.
À 90 % je dirais, oui.
Bien, merci beaucoup pour la visite. Hein. C'était très, très gentil, M. Picard. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Après avoir contemplé tous ces minéraux choisis avec soin par le géologue Michel Picard, nous poursuivons notre visite au Musée canadien de la nature en nous dirigeant vers la nouvelle galerie consacrée à l'eau, source de vie et aussi milieu de vie. Nous sommes attendus par Nicole Dupuis, responsable du contenu. Ici, un géant des mers accueille les visiteurs.
Quand les gens rentrent dans la galerie, on entend des « Oh! » et des « Wow! » parce qu'on a un squelette de rorqual bleu, un squelette entier de rorqual bleu qui est monté dans la galerie. Ça a un peu été notre point de départ pour la galerie parce que c'est une pièce dans notre collection qui est là depuis 1975 et on avait vraiment le goût de la montrer. Mais l'édifice auparavant n'était pas équipé pour pouvoir rentrer un objet de telle dimension. Alors maintenant, avec le nouvel édifice, on était capable de rentrer le rorqual bleu dans toute sa splendeur. C'est 20 mètres de long. Ce spécimen était probablement une femelle et elle était une ado. Elle avait à peu près 6 ans, ce qui est une adolescente pour dans la vie d'un rorqual bleu. Les rorquals bleus peuvent être jusqu'à 30-33 mètres de long. Il y a des vertèbres qui manquent et ces vertèbres-là, on peut le voir si on peut faire le tour ici. Vous allez remarquer qu'il y a une légère différence en couleur entre les vrais os et ceux qui ont été les reproductions. Et où il manque des os, ça nous donne un indice important pour savoir comment cette baleine-là est décédée.
Il manque quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vertèbres.
C'est ça. Et puis ça nous dit que probablement ce rorqual-là a été frappé par un navire. Il y a aussi le fait que la baleine elle-même s'est échouée près d'un corridor de navigation. Alors, c'est probablement ce qui est arrivé à notre rorqual.
Il y a une petite section de la nageoire aussi.
Oui, c'est ça. Il y a quelques petits ossements qui sont disparus aussi. Vous allez remarquer que les os qui sont les os du bassin, c'est quand même assez remarquable, c'est minuscule. On voit vraiment que cet animal-là a des résidus de son passé terrestriel, mais il reste pas grand-chose du bassin. Nous, les eaux de bassin, c'est ce qu'il y a de plus gros sur notre corps, mais eux, c'est de très petits ossements.
Alors, parlez-moi un peu du tour de force pour le mettre dans cet état. Si ça arrive pas comme ça tout propre, là, un rorqual bleu en squelette. Là.
Non, pas du tout. Alors, le rorqual même a échoué en 1975 au large de Terre-Neuve. À ce moment-là, ils ont enlevé tous les muscles et le gras et la peau sur place, sur la plage. Ils ont transporté les ossements ici à Ottawa par train. Le train, les wagons étaient tellement salis par les eaux, l'huile qu'il y a dans les eaux, qui ont dû brûler les wagons. On a pris les eaux et on les a enterrés ici sur un lot de terre. Pendant 8 ans, les eaux ont été enterrées. Et le but de cette activité-là, c'est de que les micro-organismes dans la terre agissent sur les eaux pour vraiment enlever tous les résidus biologiques qui restaient sur les eaux. Malheureusement, la terre où on a enterré les eaux était une terre d'argile. Il n'y avait pas beaucoup de micro-organismes. Quand on a déterré les eaux, on a apporté les eaux dans notre collection, mais il y avait encore beaucoup d'huile qui s'échappait des eaux. Les baleines, c'est des mammifères comme nous. Ils doivent rester au chaud dans un océan froid. Alors, ils ont beaucoup de gras qui les garde au chaud, qui aussi les aide à flotter. Mais cette huile-là, elle est même imprégnée dans les eaux. Alors, quand on a décidé de bâtir cette galerie, on a dû tremper les eaux. On a bâti des grands bacs, des genres de bains. On a donné un bain à notre baleine et on a rempli le bac d'un liquide chauffé. C'était
un liquide d'enzyme qui a agi sur l'huile qui restait dans les eaux, qui a extrait finalement le reste de l'huile. On peut encore, si on s'approche de très près du squelette, on peut encore sentir une petite odeur intéressante, disons. C'est subtil, mais c'est encore là. Puis aussi, les visiteurs, quand ils vont venir, s'ils regardent de très près les ossements, ils vont voir là, qu'il y a des petites taches d'huile, mais elles ne dégoûtent plus et elle est très belle. On a vraiment fait un travail pour la monter, parce que c'est quand même assez difficile de monter un squelette de cette taille-là. C'était un peu un puzzle qu'il fallait mettre ensemble, parce que les ossements étaient, comme de raison, n'étaient pas mis ensemble. C'était tout dans des boîtes et des bacs.
Alors, on en a plusieurs, des spécimens comme ça, de squelettes de rorqual bleu montés dans le monde et en présentation pour le public?
Non, il n'y en a pas beaucoup et c'est notre chance. On a pu avoir la chance d'en mettre un dans notre galerie. Au Canada, il y en a juste un autre en exposition. Et puis, il faudrait aller en Colombie-Britannique pour le voir.
Nicole Dupuis, merci beaucoup pour la visite. Merci.
Ah, c'est moi qui vous remercie. J'ai hâte de vous voir. Venez voir notre nouvelle galerie.
Merci. Okay. À bientôt.
Merci.
Le chant du rorqual bleu, ce géant des mers dont on peut voir un squelette de 20 mètres au Musée canadien de la nature, un très beau spécimen et une destination scientifique à mettre à votre agenda si vous passez par Ottawa. Auteur de la semaine maintenant, matière sensible, mousse, gel, cristaux liquides et autres miracles. C'est le titre du livre de Michel Mitov, physicien et chercheur au CNRS à Toulouse, en France. Un livre paru dans la collection Science ouverte au Seuil. Dans son livre, Michel Mitov nous révèle la matière dans tous ses états. Liquide, solide, gazeuse, en tout ou en partie, et même, pourquoi pas, un peu des trois à la fois. Comme dans le cas, par exemple, de la crème glacée. Et même que des substances comme l'eau et l'huile peuvent se marier, tout comme des sols, apparemment solides, peuvent se liquéfier. Pour en apprendre davantage sur la matière et ses mystères, Hugues de Roussan a invité Michel Mitov pour qu'il nous fasse découvrir cet univers de la matière dite sensible. Une matière qui peut changer d'état, de forme, et qui a même donné naissance à des phénomènes qui font courir les foules.
C'est la matière qui voit l'une de ses propriétés être bouleversée, alors qu'il y a seulement un détail dans sa composition qui a été changé, ou alors qu'il y a une toute petite excitation extérieure qui lui a été appliquée.
Prenons un exemple tout simple. Tout le monde sait que l'huile et l'eau sont incompatibles, et pourtant il arrive de temps en temps qu'il y ait mariage entre les deux.
Oui, dans la cuisine, dans le cas des émulsions, pour prendre un exemple connu qui est la mayonnaise. Dans le jaune d'œuf, il y a 50% d'eau. Et alors, comment se fait-il qu'on arrive à mélanger de l'huile avec du jaune d'œuf? Bien parce que le jaune d'œuf n'arrive pas qu'avec de l'eau, il arrive notamment avec un petit additif discret, une molécule qu'on appelle lécithine, et qui a une double affinité, c'est-à-dire qu'une partie de cette molécule aime l'eau, l'autre l'huile. Ces molécules-là vont se placer à l'interface entre l'eau et l'huile. Voilà pourquoi on peut disperser des gouttelettes d'eau et de l'huile.
Et le tout tient.
Et le tout forme une nouvelle matière, qui est une émulsion.
Avec ses propres propriétés.
Ses propres propriétés de stabilité, qui dépendent évidemment de plusieurs paramètres, dont la quantité de ces molécules qui se chargent de faire la médiation, la température, etc.
Ça fait longtemps qu'on comprend au moins de façon empirique toute cette question de la matière sensible. Déjà, les Égyptiens avaient inventé l'encre, l'encre étant un exemple parfait de matière sensible.
C'est l'histoire emblématique qu'on donne, celle du scribe qui voulait dissoudre des particules de noir de carbone dans un liquide pour fabriquer une encre, et donc il agitait le milieu à deux composants, mais la stabilité de son encre était très précaire. Et on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est par hasard ou parce qu'il a eu une intuition géniale, il a rajouté un tout petit peu de gomme arabique. En fait, c'était de la sève d'acacia dans son mélange, et à ce moment-là, il a eu une encre remarquablement stable. Alors, dans ce cas de figure-là, l'intermédiaire, eh bien, c'est cette gomme, C'est une molécule qui est très longue. Il faut imaginer un plat de spaghettis. C'est ce qu'on appelle un polymère. Les plastiques sont des polymères. Ces molécules viennent se greffer à la surface des petites particules de noir de carbone et elles font l'intermédiaire entre les particules solides et le liquide qui se seraient séparées sinon. Donc une partie de ces molécules de polymère piège le liquide, l'autre partie se greffe sur les particules, ce qui fait que ça permet de garder en suspension dans le liquide sans sédimentation les particules de noir de carbone.
Donc, autrement dit, le troisième larron de ce ménage à trois fait le lien entre les deux matières et a un peu des propriétés des deux matières.
Voilà, un peu des propriétés des deux matières, mais c'est une nouvelle matière avec des propriétés nouvelles qui est créée donc dans les encres, les peintures, ça peut être aussi le cas des cosmétiques, dès qu'il faut, en l'occurrence, mélanger deux substances qui ne se mettraient pas d'accord, donc en l'occurrence, les petits grains solides avec un liquide.
Ce principe de matière sensible, bon, ça se traduit dans des choses enfin, très pratiques, par exemple, toute la question de la médicamentation à effet retardé. C'est l'application même de la matière sensible.
Oui, dans cette problématique, on a envie qu'un médicament il soit délivré à l'endroit voulu et au moment voulu. Alors, dans la médicamentation classique, que ce soit quand on prend des médicaments par voie orale ou par voie intraveineuse, le médicament est distribué partout, il circule partout dans l'organisme. La problématique des médicaments à libération contrôlée consiste à encapsuler dans une petite coque le médicament, le principe actif. Et cette petite coque, alors qui peut être très petite, un millième de millimètre ou beaucoup moins, donc elle est administrée dans l'organisme, mais elle va venir s'ouvrir à l'endroit dans l'organisme où le principe actif, le médicament, doit être largué. Alors, comment ça se passe? Eh bien, cette petite coque molle est stable pour une certaine gamme de température. Et dès que la température est un petit peu plus élevée, comme c'est dans le cas pour une tumeur, par exemple, la coquille se désagrège, devient instable. Et à ce moment-là, elle permet de libérer à travers sa paroi le médicament à l'endroit où il faut. Et le temps au bout duquel on délivre le médicament peut être aussi réglé par les propriétés de cette petite coquille. Donc ça permet d'éviter des effets secondaires très lourds. Pensons à la chimiothérapie. Il y a des effets secondaires qui sont lourds justement parce que c'est tout l'organisme qui est traité alors qu'on voudrait des effets localisés. Cette problématique de libération contrôlée du médicament peut intéresser aussi le traitement du diabète. Il y a beaucoup de pathologies qui bénéficient déjà et qui bénéficieraient de plus en plus de ce genre de médicaments à libération contrôlée.
Est-ce qu'on comprend vraiment comment ça fonctionne, toute la question de la matière sensible? On va prendre un cas compliqué, qui est d'ailleurs très agréable à manger, la crème glacée. En lisant le livre, j'ai tout de suite pensé à crème glacée comme étant le champion du monde de la matière sensible. C'est très complexe. Est-ce qu'on comprend vraiment les lois qui régissent toutes les interactions qui font que la matière sensible ou des matières sensibles, finalement, se marient, se coagulent, se fusionnent et créent une nouvelle matière?
C'est une recherche très active parce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir. On connaît des comportements, en particulier pour des systèmes modèles simples. Mais l'exemple que vous donnez est en effet particulièrement emblématique. C'est le colloïd alimentaire, sans doute le plus complexe qu'il soit, puisque c'est une mousse, une crème glacée, c'est aussi une émulsion, c'est une dispersion. C'est un gel, il y a plusieurs états qui coexistent, gazeux, liquide, cristallin, vitreux, il y a des gouttelettes de matière grasse, des bulles d'air, des cristaux de glace et tout ça dans une phase aqueuse. Donc à cause de la diversité des phases qui coexistent, du type d'objet, de la taille des objets, le système de stabilisation d'une crème glacée, qui est évidemment très importante pour les fabricants, eh bien relève souvent d'une question de savoir-faire. C'est pour ça que ça explique en partie, au-delà, on va dire, de la qualité des ingrédients qui sont mis en œuvre, le savoir-faire pour stabiliser l'ensemble et qui va avoir un impact majeur sur la qualité sensorielle en bouche. Eh bien, elle dépend encore, pour plusieurs principes, d'un savoir-faire un peu empirique de certains fabricants. On a des réponses à certaines questions, mais on a encore beaucoup de choses à découvrir parce que les systèmes sont très complexes et à cause de la diversité justement des structures et des composants, c'est difficile de trouver une recette, on va dire, de stabilisation qui résulte d'une prédiction dans laquelle on aurait injecté des équations qui permettent de prédire la stabilité ou l'instabilité.
On parle de grains, de matière en grains. Est-ce que ces lois qui régissent la matière sensible régissent également les situations où il y a d'énormes quantités de matière en grains? Je vais donner l'exemple, par exemple, d'une dune de sable. Une dune de sable, théoriquement, ça ne bouge pas, ça reste immobile. Et pourtant, on peut provoquer des changements dans la dune de sable qui fait que la dune de sable ne se comporte plus de la même manière.
Oui, tout à fait. La matière en grain, voilà un exemple de matière très sensible à un petit choc qui dépend aussi beaucoup de la personnalité et des caractéristiques des individus, les petits grains, la forme, leur taille. Et dans le cas de ces dunes qu'on appelle barkanes et qui ont une forme de croissant, donc par exemple en Mauritanie, elles se déplacent sur de très grandes distances par une série d'étapes d'écroulement, puis de reconstitution, écroulement, reconstitution sous l'effet du vent. Il y a des chercheurs qui font des campagnes sur le terrain et puis qui reconstituent à petite échelle des barkanes dans les laboratoires. On aimerait pouvoir arriver à élaborer des outils qui permettent de prédire le déplacement en termes de direction, de temps, de constitution, reconstitution de ces dunes. Donc c'est vrai qu'une toute petite vibration dans un tas de granulaires, eh bien, va pouvoir, il suffit que quelques grains soient déplacés seulement, ça fait déplacer les voisins, etc. Et on assiste à un phénomène d'avalanche spectaculaire.
Est-ce que c'est le même phénomène qui survient lorsqu'il y a un glissement de terrain, par exemple?
Alors, c'est un autre phénomène, c'est aussi une matière sensible. Un cas qui est connu, c'est le cas des terrains argileux. Un argile, c'est une pâte, c'est un milieu où il y a des particules et de l'eau, mais les particules sont en très forte concentration. Alors, il y a des terrains d'argile sensibles. Par exemple, au Canada, dans les terres basses du littoral du fleuve Saint-Laurent ou de la rivière des Outaouais, eh bien, il y a une argile qui peut être sensible de deux façons. Soit, s'il y a eu peu de précipitations, le terrain s'assèche et à ce moment-là, toutes ces particules qui étaient agglutinées les unes entre elles par de l'eau, eh bien, deviennent fragiles. Ce sont des terrains fragiles parce que le solvant qui est l'eau s'est évaporé. Mais ce n'est pas tellement à ce premier type d'argile auquel je pense, c'est plutôt au second. C'est un argile qui, lui, garde son solvant qui est l'eau, mais sous l'effet d'une petite vibration, à partir d'un certain seuil dans cette vibration, eh bien, les particules se mettent à bouger les unes entre elles et il y a là aussi une sorte de phénomène d'avalanche qui fait que le milieu qui était très très pâteux au début eh bien, devient de moins en moins pâteux et de plus en plus fluide, voire même très très fluide. Ce qui fait que s'il y a un petit mouvement de l'écorce terrestre ou un séisme même d'amplitude modeste, eh bien, on assiste à une liquéfaction de ce terrain argileux sur des temps très courts d'ailleurs, hein, et si le terrain se liquéfie, bien il emporte sur son passage toutes les habitations.
Donc le passage d'une matière presque solide à un liquide en très peu de temps.
Voilà, brutal.
Dans votre livre, vous parlez d'un sujet qui a fait et qui fait encore couler beaucoup d'encre, c'est la question du sang liquéfié de Saint-Janvier à Naples. Alors dites-moi comment cette question a un lien avec la matière sensible.
Alors c'est un exemple fabuleux de sensibilité de la matière. Alors Saint-Janvier, San Gennaro en Italie, c'est un saint qui a été martyrisé, exécuté en l'an 305. Et son sang aurait été conservé dans des ampoules et on les voit apparaître à Naples au XIVe siècle au sein d'une cérémonie où on vénère les reliques de Saint-Janvier trois fois par an. Et ça, de nos jours, ça continue à être vénéré depuis le XIVe siècle. Il y a dans cette ampoule une substance très sombre, très solide, qui au cours de la messe, à un certain moment, se met à se liquéfier. Le scientifique a des hypothèses, j'en parle dans mon livre, et je les révise un petit peu par rapport à ce que moi j'ai vu en mai 2008, quand je m'y suis rendu. J'insiste beaucoup, le scientifique n'a pas pour objectif de démontrer que ce qui se passe dans cette ampoule et dans cette cathédrale à Naples n'a pas une origine divine. Son rôle est de donner des hypothèses alternatives. Les deux qui ont été traités un peu séparément, de mon point de vue, doivent être nécessairement liés, donc nécessité d'un seuil en température. Et ensuite, il faut qu'il y ait une agitation minimale pour que le fluide passe de la transition solide à liquide.
Donc ce que vous dites, c'est que le fluide va changer d'état, il va passer de presque solide à liquide en fonction de variations de la température et de vibrations.
Oui, voilà. Alors le seuil de température me semble nécessaire et on le voit dans l'état du fluide aux trois moments de l'année En mai, il est visqueux, un petit peu comme un gel. En septembre, il est très liquide. Et des fois, même quand on ouvre les portes du coffre où le reliquaire est placé, il est déjà liquide. Et par contre, en décembre, la troisième occasion, la liquéfaction tarde et voire même assez souvent ne vient pas. Donc pour le moins, la corrélation entre température et état du fluide doit être envisagée. Ça ne suffit pas à expliquer cela. Il faut invoquer ces fluides à seuil que l'on appelle thixotropes, et qui ont la faculté de se liquéfier sous l'effet d'une contrainte modeste, mais surtout d'avoir un effet retour à l'état solide qui peut être très long, des temps de retard très longs. Et ce qui fait qu'au cours de la messe, quand on manipule le reliquaire, il suffit à peine de le manipuler un tout petit peu pour que le temps de retour à l'état solide soit très long. Alors, ça serait un fluide qui changerait de viscosité simplement avec la température, on ne verrait pas ça. Dès que la température change, il reviendrait à l'état initial.
Est-ce que vous, en tant que scientifique, vous aimeriez pouvoir faire l'analyse de cette substance de Saint-Janvier?
Moi, je serais très curieux de connaître la composition, mais je serais encore plus curieux de savoir quelle est l'origine de ce fluide dans la fiole. C'est-à-dire à quelle époque remonte-t-il? Est-il réellement de l'an 305? Est-ce qu'il est plus tardif, etc.? Et surtout, mais alors là, c'est mission impossible, dans quelles circonstances il a été fabriqué? Est-ce que c'était une fabrication fortuite? J'en parle dans le livre. Et la personne qui a fabriqué ça un peu par accident, notamment peut-être au temps des alchimistes, lui a donné une explication surnaturel, de toute bonne foi, ou est-ce que c'est vraiment la fabrication d'un faux fluide avec l'idée d'un scénario derrière, peut-être d'ailleurs à la même époque, hein, au XIVe siècle, l'alchimie battait son plein, la fabrication de fausses reliques aussi. Donc je serais encore plus intéressé et fasciné par connaître l'histoire.
En terminant, je voudrais rappeler le titre du livre, « Matière sensible », paru aux éditions du Seuil dans la collection Science ouverte. Son auteur, Michel Mitoff, est physicien et chercheur au CNRS à Toulouse. Merci, M. Mitoff, d'avoir été avec nous.
Merci, Hugues de Roussan.
C'est donc ainsi que se termine cette édition des Années-Lumière, votre émission d'actualité de culture scientifique, réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin. Y ont contribué cette semaine les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Gaëlle Lucia Berdoux, de même que le chroniqueur invité, l'astrophysicien Laurent Drissen, professeur à l'Université Laval. La journaliste au site Internet s'appelle Lily Boisvert et d'ailleurs, vous pouvez en tout temps aller consulter le contenu de notre émission sur notre site Internet à l'adresse www.radio-canada.ca/lumière. Je vous invite également à nous soumettre vos questions de science sur notre répondeur téléphonique de la Grande Région de Montréal. Vous composez le 514-597-6166, 514-597-6166. Ou de l'extérieur, le numéro sans frais 1-800-752-9050. Ici Chantal Srivastava, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je souhaite d'excellentes vacances à notre animateur Yannick Villedieu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.